Bonjour et bienvenue. Il y a des dates qui sont des points d'ancrage dans le passé, et puis il y en a d'autres qui tentent d'être des points de départ vers l'avenir. Le 11 janvier dans l'histoire marocaine, c'est bien sûr la date mémoire du manifeste de l'indépendance de 1944. Mais cette année, un événement a essayé de retourner ce symbole. On va donc se plonger aujourd'hui dans la charte du 11 janvier pour la jeunesse, une initiative lancée par le parti de l'Istiklal, un parti historiquement lié justement à cette lutte pour l'indépendance. Nos sources sont un dossier spécial d'un hebdomadaire qui décortique non seulement la charte, mais aussi tout le contexte. Notre mission, comprendre ce qu'elle révèle des attentes, des fractures de la jeunesse marocaine et des ambitions du pays.
Et il faut le dire tout de suite, le parallèle qu'ils font est quand même très osé.
Ah oui.
En se comparant au manifeste de 1944, le parti ne propose pas juste des mesures, il se place dans l'histoire, quoi.
C'est un pari énorme.
Énorme, en fait. Le risque, c'est que si rien ne se concrétise, eh ben, l'échec sera perçu comme historique lui aussi.
Ce n'est plus une simple promesse électorale.
Exactement. C'est une tentative de réactiver l'idée d'un contrat national avec une nouvelle génération. Et d'ailleurs, un détail dans les sources est très parlant.
Lequel ?
Lors du lancement, il y avait des jeunes du Pasti, bien sûr. Mais il y avait aussi beaucoup de jeunes non affiliés, des associatives, des créateurs de contenu. Ça montre qu'ils ont compris quelque chose.
Que le temps de la politique verticale est révolu ?
Voilà. Le temps où on pouvait encadrer la jeunesse de manière un peu paternaliste, c'est complètement fini.
D'accord. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le contenu de cette charte, elle est structurée en plusieurs piliers. Le premier, ce sont les droits économiques et sociaux. On y parle d'une école publique de qualité, surtout en milieu rural.
Un point crucial.
Voilà, d'une formation professionnelle qui ne soit plus une voie de garage, mais un vrai choix à connecter aux régions. Et il y a cette idée qui revient. Institutionnaliser une deuxième chance pour les jeunes en décrochage.
Les fameux NEET, ni en emploi, ni en études, ni en formation.
C'est une belle idée, mais...
Nos sources disent comment ils comptent financer ça. Parce que ça sonne incroyablement ambitieux.
Et cher.
C'est la question à 1 million de dirhams. Et non, les sources ne rentrent pas dans ce détail. La charte, ça reste un document de principe, pas un projet de loi de finances. Mais ce qui est intéressant, c'est que le simple fait de le poser sur la table comme une priorité, eh ben, ça change le débat. Et dans ce même pilier, il y a un point qui, pour moi, est le plus novateur.
Ah oui.
La santé mentale. Les articles le soulignent vraiment. La charte parle ouvertement d'anxiété, de dépression, du besoin d'un accès à des soins psy de proximité.
C'est une rupture, ça.
C'est une vraie rupture. On reconnaît enfin qu'une société qui demande à sa jeunesse d'être performante, résiliente...
De se battre sur le marché du travail...
...ne peut pas en même temps ignorer l'épuisement et la détresse que cette pression engendre.
Ce qui m'a surprise dans la partie sur l'emploi, le deuxième pilier, c'est le vocabulaire choisi. Ils insistent sur le terme d'emploi digne.
Exactement. Digne.
Ça va au-delà d'une simple fiche de paie, on est d'accord.
Complètement. Ça répond à une angoisse qui dépasse le chômage, Céline. Celle de la précarité et du travail qui n'a pas de sens. Un emploi digne, ça veut dire une protection sociale, des droits, une perspective.
Et ils sont très actuels là-dessus.
Très. Ils abordent frontalement la question des travailleurs des plateformes numériques. Les livreurs, les chauffeurs VTC.
Toute cette nouvelle économie qui est souvent dans un flou juridique total.
Voilà. Proposer de légiférer pour eux, c'est reconnaître le travail des jeunes tel qu'il est en 2026. Ce n'est pas un appel à créer des postes de fonctionnaires, c'est une tentative de penser le travail d'aujourd'hui.
Et ça nous amène logiquement au troisième pilier, les compétences. Je m'attendais à y trouver des choses classiques, le codage, l'anglais.
Il y en a, bien sûr.
Oui, mais ce n'est pas le cœur du sujet. Le texte insiste beaucoup plus sur l'adaptabilité, l'esprit critique et surtout la citoyenneté numérique.
Et ça, c'est absolument crucial.
Développer.
La citoyenneté numérique, ce n'est pas juste savoir utiliser TikTok, hein. C'est comprendre les enjeux de la protection des données.
Avoir les outils pour lutter contre les fake news, j'imagine.
Précisément. Et c'est même, c'est mentionné, réfléchir à l'éthique de l'intelligence artificielle. En fait, ils reconnaissent que l'espace numérique est devenu le principal lieu de socialisation, de débat.
Et parfois de radicalisation.
Aussi. Donc, garantir des droits et donner des outils pour y naviguer, ce n'est plus une option. C'est une condition pour la cohésion sociale de demain.
Ce qui nous conduit au quatrième et dernier pilier, sans doute le plus sensible.
La participation politique.
Oui, l'idée affichée, c'est de combler le fossé entre la démocratie déclaré dans les textes.
Et la démocratie vécue au quotidien?
C'est ça. On y parle d'accès des jeunes aux responsabilités, de transparence, de lutte contre la corruption.
Oui, et c'est là que le bât blesse pour beaucoup. C'est là que le scepticisme est le plus grand.
C'est un refrain qu'on entend souvent.
Exactement. C'est un point essentiel. Mais tous les partis le disent. La question que les jeunes se posent, c'est deux points. Qu'est-ce qui rend cette promesse-ci plus crédible que les autres? La charte demande plus de transparence, des budgets participatifs. Mais le véritable enjeu, c'est la confiance.
Et la confiance, ça ne se décrète pas.
Jamais. Elle se construit. Par des preuves. C'est peut-être le pilier le plus important, mais aussi le plus fragile de tout l'édifice.
Ok, donc on a le quoi, une charte très ambitieuse. Mais pour comprendre le pourquoi maintenant, il faut dézoomer. Et les autres articles de nos sources peignent un tableau du Maroc de début 2026, disons, contrasté. Par exemple, sur le plan économique, la Banque mondiale qui s'apprête à débloquer 500 millions de dollars pour l'emploi.
Et en même temps, on lit quoi? Que 3,4 millions d'élèves bénéficient d'aide sociale. C'est une augmentation de 19% en un an. Et 60% d'entre eux sont en milieu rural.
La tension est là, en direct.
Exactement. D'un côté, on cherche des solutions macroéconomiques pour l'emploi. De l'autre, on met des rustines sociales massives pour éviter que le système n'explose. La charte essaie de se positionner comme un pont entre ces deux réalités.
Et au milieu de ça, il y a une ombre qui plane sur tout le reste. Un chiffre m'a sauté aux yeux. Le taux de remplissage des barrages est à peine de 42,5%.
Ah oui.
Ça rend une autre info l'interdiction de la culture de la pastèque à tata beaucoup moins anecdotique, non?
Totalement. Et ça se connecte directement à la charte.
Comment ça?
Vous ne pouvez pas promettre un emploi digne aux jeunes dans le rural si vous n'avez pas de réponse durable à la question de l'eau.
L'un ne va pas sans l'autre.
Évidemment. Ça montre que les plus belles promesses du monde se heurtent à des réalités physiques, climatiques. La question de l'eau, ce n'est plus un sujet pour experts, quoi. C'est devenu la contrainte numéro un.
Cette pression, on la ressent aussi sur le plan politique. Un autre article nous apprend que les avocats sont en grève nationale.
Oui, contre un projet de loi qui menacerait leur indépendance, selon eux.
Le dialogue semble rompu avec le ministère.
C'est un symptôme intéressant. Au-delà du conflit sectoriel, ça pose la question de la fabrique de la loi. De ne pas être écouté, ça en dit long sur le climat. Et ça fait écho au scepticisme des jeunes. S'ils voient que même les corps constitués peinent à se faire entendre, comment peuvent-ils croire que leur voix, à eux, portera?
Changeons complètement de registre, mais pas de contexte. Le pays vit au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations, l'ambiance est à la fête, mais l'actualité qui en découle est à double tranchant.
C'est le moins qu'on puisse dire.
D'un côté, 118 arrestations pour revente illégale de billets, ça montre un engouement populaire immense.
Mais de l'autre, nos sources relaient une alerte. Celle d'un expert, Habib Belkouch, qui met en garde contre l'utilisation de ces grands événements sportifs.
Comme plateforme pour des discours de haine.
Exactement. Des discours de haine entre les peuples, amplifiés à une vitesse folle par les réseaux sociaux. C'est la face sombre de la fête. Un moment de communion nationale peut devenir une caisse de résonance pour les pires nationalismes.
Gérer la sécurité d'un tel événement, ce n'est plus seulement gérer les foules dans les stades.
C'est aussi gérer la guerre de l'information en ligne.
Et pour finir ce tour d'horizon, une nouvelle qui montre l'autre visage du Maroc. Le pays vient de prendre la présidence de l'examen de la stratégie antiterroriste mondiale de l'ONU jusqu'en juin 2026.
Une marque de confiance politique.
Alors, si on met toutes ces pièces du puzzle ensemble...
Le tableau devient fascinant, je trouve. On a un pays qui gère d'énormes pressions internes. Le stress hydrique, la grogne sociale, le défi de l'emploi des jeunes.
La cohésion sociale.
Et en même temps, ce même pays se positionne sur la scène internationale comme un pôle de stabilité. Un organisateur de grands événements, un acteur clé de la diplomatie.
Je vois où vous voulez en venir.
La charte pour la jeunesse, dans ce contexte, n'est plus une simple initiative de politique intérieure. Elle devient un enjeu stratégique. C'est la réponse à la question « Comment mobiliser sa plus grande richesse, sa jeunesse, pour qu'elle soit le moteur qui permet de surmonter les défis et non le carburant de futures crises ?»
Pour consolider ce positionnement international.
L'un ne peut plus aller sans l'autre.
C'est une lecture très claire. Alors, si on devait synthétiser pour conclure, on pourrait dire que cette charte du 11 janvier, c'est le symptôme d'une prise de conscience. La question n'est plus de savoir comment séduire les jeunes avec des slogans.
Non.
Mais comment les associer réellement, écouter leurs angoisses et libérer leur énergie. Mais le vrai défi, comme le dit un des articles, sera de passer des grands récits aux petites victoires concrètes.
Exactement. Et ça nous amène à la question que toute une génération se pose. Face à un texte aussi ambitieux, et après. L'événement était un succès. La charte est bien écrite, les intentions sont louables. C'est un fait. Mais le vrai test, le seul qui compte, il commence maintenant. Il se jouera sur la capacité à traduire ces grands principes en dispositifs concrets, mesurables, avec un calendrier, un budget.
Et un cadre de redevabilité.
Surtout. Parce que les jeunes n'ont pas un problème avec les belles promesses. Ils ont un problème avec les belles promesses qui s'évaporent le lendemain.
Donc la vraie question, c'est de savoir si ce n'est qu'un beau document de plus à ranger dans les archives.
Oui. Ce qui laisse une dernière pensée pour continuer la réflexion. Dans un monde où la méfiance envers la parole politique est si profondément ancrée, et souvent à juste titre, comment une génération peut-elle s'assurer qu'un projet aussi complet ne reste pas lettre morte? Et plus directement encore, au-delà d'attendre que ça vienne d'en haut, quel rôle peut-elle jouer pour s'emparer d'un tel document et en faire un levier de changement? Dans son quartier, son université, son entreprise, dans son propre quotidien, quoi. La question n'est peut-être plus de savoir ce que la politique peut faire pour les jeunes, mais ce que les jeunes peuvent faire avec la politique. Même, et surtout, quand ils n'y croient plus.